Direct en jeu, la radio insolite. Vous savez qu'en radio, on ne voit jamais où est-ce qu'on est. Imaginez, là, je suis au Carlton. Et je ne suis pas... Je suis... Comment te présenter? Alors, si je devais présenter mon cher invité qui est là à côté de moi en ce moment, je ne sais pas si je devrais dire qu'il est acteur, réalisateur, metteur en scène. Enfin, qu'est-ce que tu ne fais pas, en fait? Bonjour, qui es-tu déjà?
Alors, c'est Franck Felizon. Alors, on va dire producteur, réalisateur, scénariste, cadreur et acteur. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe là? Tu as eu envie de voir une diversité?
Non, parce que je crois que c'est un film dans lequel je voulais placer beaucoup d'éléments que je ressens fortement au fond de moi et qu'il me ressemble. Alors, se servir mieux quand on a la chance d'être producteur avec des coproducteurs que j'ai réussi à convaincre de rejoindre ce projet. Le film s'appelle Who, qui, et avec Claudia Cochet, qui est créatrice de contenu sur TikTok. Et finalement, oui, d'abord la réalisation, j'aime beaucoup ça, jouer aussi. J'avais, il y a très longtemps, joué dans Itinéraire d'un enfant gâté ou dans J'embrasse pas de tes chaînés. Donc c'était très, très intéressant pour moi. Et puis, voilà, tous ces corps de métier m'intéressent passionnément. Tout ce qui participe à la création m'intéresse.
Quel est ton parcours avant?
Alors avant, j'ai fait un film pour Netflix qui s'appelle Paranormal Investigation, qui a été un gros succès mondial. Et encore avant, j'ai fait Kickback, premier film français en e-cinéma, au moment où Netflix commençait à, en parallèle à sortir, en 2015. Et avant ça, mon premier film, c'était Les Amours Secrètes avec Anémone, la grande Anémone, que ce film a ramené au cinéma d'ailleurs, avec Richard Bohringer, Jérémy Elkaïm et... la bande originale du film était interprétée par la très grande Morane. Et c'était mon premier film et j'étais très très content de l'avoir fait parce qu'il me ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, le film que je viens de faire, il y a des nuances un peu comme ça. Donc, moi qui adore Bergman, donc j'aime bien y mettre ce que j'aime chez Bergman, des silences habités, on dit, d'émotions.
Alors, on continue sur avant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dedans quand t'étais petit?
Non, parce qu'en fait, je me suis aperçu que mon père, depuis, et ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai compris, mon père, il avait une caméra Super 8, et il filmait toutes les fêtes. Non, mais à l'âge de je ne sais pas, 15 ans, 13 ans, je lui ai dit, passe-moi la caméra. Je me souviens, j'ai filmé une soirée de Noël, et à partir de là, j'ai filmé énormément tout ça. Après, je me suis lancé dans la chanson, parce que je trouve que je chante pas trop mal, donc j'ai pu bosser avec Goldman, mais avec Carl Fredericks, beaucoup. Et puis, j'ai fait des courts-métrages, ce qui est normal pour se faire la main. J'ai la chance de rencontrer André Téchiné, qui est devenu mon père spirituel, qui est un ami que je connais depuis petit. Et puis, André m'a beaucoup aidé, m'a donné un petit rôle, je pense pas. Et puis, après le court-métrage, de fil en pellicule, on va dire, j'ai voulu Les Amours Secrètes avec Anémone. J'ai pu tourner le film dans des conditions économiques compliquées. Et j'ai la chance d'avoir rencontré Alexandre Pio, qui était producteur à Londres, qui a vu Anémone. Il vit là-bas depuis longtemps. Et dans ce qui était un peu le film, mais qui n'était pas monté vraiment. Et là, il a dit oui, je viens. Et donc, il a permis au film de se faire. Et après, c'était l'aventure de ce premier film, Les Amours Secrètes, qui se passait pendant la guerre. Et qui a fait l'objet de deux festivals aux États-Unis, au Maroc. Enfin, on a fait le festival d'amour de Mons en Belgique. Et à partir de là, j'ai décidé de continuer. Parce qu'Anémone m'a fait un compliment lorsque j'ai raccompagné. Parce que quand on est jeune réalisateur et qu'on tourne avec des monuments du cinéma, je raccompagne avec son petit chien turlute à la voiture après ses scènes. Et elle me dit, t'es un très bon metteur en scène, Franck. Alors, pas pour me flatter que je dis ça, simplement venant d'une si grande actrice, c'est pour ça que je continue. Et d'ailleurs, même 3 semaines avant qu'elle nous quitte, je l'avais appelée et je l'avais encore remerciée de m'avoir aidé, puisque grâce à elle, je continue.
C'est important, ça, comment dire, de voir ces monstres du cinéma, comment dire, aider des pieds. Qu'est-ce qui t'a... Alors déjà, le film s'appelle Où? Alors Où, ça s'écrit comment? O-U?
W-H-O, en anglais, qui? Alors qui, c'est intéressant dans le côté psychanalytique, parce que qui sommes-nous réellement? Qui? Et qui, j'adore ce mot parce qu'en fait, c'est impersonnel. Et en même temps, ça peut définir quelque chose auquel on croit. selon notre éducation et nos principes. Donc oui, bien sûr, qui ? J'aime beaucoup ce titre. Et c'est un seul mot, et je crois qu'il tape quand même WHO. Alors on se dit, oh.
Quelle était l'inspiration ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Parce que tu... Oui, de faire ce film.
Alors, quand j'ai rencontré Claudia Cochet, qui avait été primée à Cannes en 2022, j'ai vu un article, j'ai rencontré, puis du coup, j'ai voulu écrire un scénario. On a parlé du sujet, d'une créatrice de contenu qui est assassinée au début, si on peut le dire, on ne va pas révéler le twist. Mais et du coup, oui, ça m'a passionné dans l'écriture avec elle. On a une vraie symbiose tous les deux, alchimie. Et dans la réalisation, j'ai, ça c'est moi, ma script a beaucoup de soucis, c'est-à-dire que, en principe, sur le tournage, sur celui-ci, je ne fais pas de découpage, parce que je sais exactement là où je vais poser ma caméra. On a fait des repérages avant. Et là, j'ai créé des scènes, j'ai réécrit des scènes dans le film, peut-être 10 ou 15 scènes, et qui donnent cette profondeur. Quand je prends ma caméra, je vais chercher l'émotion. Si tu as vu le film, tu as dû t'en rendre compte. Je vais chercher l'émotion, je vais le provoquer. C'est pas une caméra qui capte une émotion fixe. Je vais la chercher, je débute la caméra. Parce que quand je débute la caméra dans le film, c'est l'abîme vers laquelle on va et qui m'intéresse beaucoup. Parce que du coup, notre vie n'est jamais rectiligne, c'est toujours comme ça. Donc ça m'a intéressé de faire « Who ?», qui raconte l'histoire de cette vlogueuse qui est assassinée, dont le mari est arrêté, interné en psychiatrie, muré dans le silence, et qui représente sans doute beaucoup de gens qui renferment des secrets sans jamais les avouer, les dire. Et j'aime le côté spectateur, moi qui étais passionné par Fenêtre sur cour, et dans le film il y a un petit coup de chapeau hein, à un moment donné là-dessus, on s'invente nous-mêmes les spectateurs l'histoire qui a pu se dérouler et qui n'est jamais la bonne histoire parce qu'on réagit par rapport à nos fantasmes.
Et là, je confirme.
Tu vois, et donc j'emmène le spectateur. Claude Lelouch a vu le film il y a 5-6 jours et je suis content, il a aimé le film. Mais pareil, je l'emmène, il me dit tu nous emmènes sur une piste, etc. Oui, parce que rien n'est acquis, parce que dans la vie. On ne peut pas prévoir demain. Moi, je suis passionné par le bouquin d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui dit simplement une chose, ce qui est passé n'existe plus. Ça nous construit. Mais l'avenir n'existe pas. Dans une heure, n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Et dans le film, c'est ça. C'est-à-dire, on croit que c'est un tel ou une telle. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Chacun se fait son interprétation. Et là, pour moi, on est assez dans le côté hitchcockien, Fenêtre sur cour, où on se fait une idée des voisins en face. Est-ce que c'est la bonne idée ? Est-ce que les bijoux ont été volés ou non ? On ne sait pas. Est-ce que la femme est morte ou pas ? Enfin, on ne sait pas. Donc tout ça m'intéresse. Et dans Roux, c'était ça. C'était de raconter l'histoire de cette fille qui ne vit, alors c'est là où c'est un film moderne, qui ne vit que pour sa communauté. Puisque pour moi, TikTok, c'est le parfait confident, c'est vraiment la liberté pour moi, c'est de pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, je disais tout à l'heure à Eric Garando que j'ai vu chez TikTok, les histoires. Cécile B2000 disait, donnez-moi une page de la Bible, je ferai un film. Et là, on prend juste une histoire TikTok, on fait un film, les gens racontent leurs histoires en 3 minutes, en 2 minutes, je trouve ça génial. Et donc, elle a donc cette fille qui se filmait, Nora Denios, et qui a des caméras chez elle et qui ne cesse que de se filmer. Elle raconte la vie de son fils, de son mari. Mais jusqu'où on peut aller ? Au meurtre, au point que ça dévaste, au point où on se donne tellement aux autres qu'on en oublie son enfant. Tout ça joue dans le film et ça m'intéresse. Et surtout, Alain, c'est que je ne voulais pas que le méchant ou la méchante soit caractérisé par ce qu'on a l'habitude de voir. Je me suis dit, si on prend quelqu'un de méchant, il est méchant. Mais si on s'intéresse à sa vie passée, peut-être qu'on lui trouverait certaines nuances, peut-être pas pardonnables, mais quand même un peu plus compréhensibles. Et là, dans ce film, dans mon film, on a ça. Je pense qu'on a une certaine forme d'empathie pour ce qui représenterait le méchant ou la méchante, parce que tu as vu le film, on ne va pas dévoiler. Mais je trouve qu'à ce moment-là, voilà, il y a des éléments très forts. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça, d'emmener le spectateur sur un terrain où j'aime bien aller là où le spectateur ne m'attend pas. C'est ce que je dis à chaque fois que je fais un film. Dans Les Amours Secrètes, je n'aime pas qu'on prévoie la fin. On peut supposer. Non, mais il y a des gens qui la devinent. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a un contexte des gens. Le casting, je pense, est plutôt très bon. Mais on avance avec eux. Et les acteurs, c'est tout le monde. J'aime quand on se dit j'aimerais bien être avec eux, c'est ça le cinéma. Et du coup, quand on les voit, bah, c'est vous prenez Chris Daigneault, bah, des Chris Daigneault, il y en a partout. Tout le monde peut s'identifier au personnage dans le film. Voilà.
Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné dans le film, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais dans le film, à un moment donné, elle dit « Oh, il n'y a que dans la chambre à coucher, comme on dit, où il n'y a pas de caméra. » Mais je me suis demandé s'il était je ne vais pas dire un ode à la télé-réalité, mais enfin bon, là, on voit tout, quoi. C'est un peu à la mode en ce moment.
Bah, c'est-à-dire qu'elle joue avec le feu, parce que oui, effectivement, bon, il nous faut un peu d'intimité, dit-elle. Pas de l'intimité, et pourtant dans le couloir, dans ce couloir, il se passe des choses. Et d'ailleurs, Alain, pourquoi le couloir, l'affiche est révélatrice de ça. Je mets un tunnel au fond, c'est un long couloir, il y a la lumière. Est-ce que c'est la lumière qui symbolise notre pureté ou bien notre déchéance? Et ça m'intéresse parce qu'en plus c'est enfermé, c'est assez claustrophobique finalement. Et les couloirs, il y a le couloir de l'hôpital qui est fantasmagorique, il y a le couloir dans le loft qui est un couloir où il se passe beaucoup de choses. Et c'est dramatique. Donc la vie pour moi, alors c'est peut-être basique, étant un couloir qui donne sur des portes, à nous de savoir les ouvrir ou de les fermer, ça je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que dans le film, je mets des couloirs et encore une fois, ma caméra est débulée, c'est un style que j'aime, dès lors que notre vie à nous les humains nous pousse vers l'abîme, tous, et on lutte. Alors, faire un régime c'est dur, se comporter bien c'est dur parce qu'on a plutôt envie d'aller vers l'abîme, nous sommes des animaux, hein. C'est, enfin entre guillemets on est sauvages, tu vois, et finalement là dans le film c'est la caméra est toujours débulée lorsqu'il s'agit surtout d'un personnage et en résonance qui enferme les autres personnages que disait Bergman, eh bien du coup ça bascule comme ça dans le vide et que les... Il y a une scène vers la fin, et on ne va pas le dire, où tu as un personnage qui va vers le mur et tu vois, la caméra se débule de droite à gauche. Et là, c'est le précipice, c'est épouvantable. Il a du mal à se tenir, presque. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est la vie. C'est comme ça.
En voyant le film, ça me trottait dans la tête. Chaque fois, je me demande comment est-ce qu'un réalisateur peut être en même temps comédien. Je me disais, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais une scène, puis t'arrêtais pour dire non, on recommence?
Non, j'adorais jouer ce flic alcoolique, complètement anti-héros, loser même, qui loupe beaucoup de choses dans le film, mais c'est pas grave, c'est la vie, et encore une fois, c'est la vie. Il n'y a qu'au cinéma hollywoodien, on a des héros, moi j'aime l'anti-héros, qui peut ressembler à tout le monde, parce qu'on ne réussit pas tout, ce n'est pas vrai, on ne réussit pas tout, enfin, selon moi. Mais jouer ce personnage m'a intéressé, parce que quelque part, pas qu'il me ressemble, je ne suis pas un alcoolique, mais je voulais... j'aime ce personnage qui est pour moi symbole, qui a un passé compliqué, qu'on condamnerait d'ailleurs si on ne connaissait pas sa vie. On le condamnerait par rapport à son enquête. Alors qu'en réalité, tout d'un coup, le spectateur rentre dans l'affect puisqu'il a une info et là, il devient attachant. Je reviens au même principe que quelqu'un qui ne serait pas gentil dans un film. Si on raconte tout d'un coup un élément de son passé, on se dirait oui, mais elle a ou il a des circonstances atténuantes. Donc le flic, j'ai aimé le jouer. Parce que justement, parce que j'ai adoré une série qui s'appelle The Sinner avec Bill Pullman sur Netflix, qui est l'histoire d'un flic qui enquête, mais qui est complètement un peu loser, qui est anti-héros. Le personnage, enfin, l'acteur était absolument immense. Et je voulais jouer à ce style de personnage parce que rien n'est acquis. Jouer un mec, ça y est, qui a des couilles, machin, oui, c'est bien, si le film fait 15 millions de dollars, mais là, le film est quand même important, le budget, malgré tout, mais là, du coup, on se dit, voilà un mec qui enquête sur une histoire absolument dingue, où une fille se fait buter au départ, ce qui est assez violent, le début, hein, et le mari, complètement à l'ouest, on va, grâce aux caméras, la police va pouvoir retracer, et ce mec est à l'ouest, au point que c'est même la jeune fille avec qui il vit qui lui apporte des images sur ordinateur pour lui dire, regarde, il y a James, voilà ce qui se passe. Donc c'est très intéressant de jouer ce personnage, tout simplement. Un loser, un peu un loser, anti-héros, mais qui a des circonstances atténuantes.
Le casting, tu le connaissais tous, avant?
Christopher Lafay, qui est excellent dans le film, qui joue le rôle de Chris Daigneault, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui était chauffeur VTC, je crois, au départ. Et puis, on s'est vu, ça fait des années, il était venu voir mes deux autres films. Et puis, sur TikTok, il excelle assez, il est assez comédien. Mais bon, finalement, de fil en aiguille, j'ai accepté qu'il passe des essais. Et à ma grande surprise, il a été excellent. Avec lui, j'ai dû faire au moins 15 essais, hein, parce que j'ai fait faire beaucoup d'essais aux acteurs. Et je pense que le résultat est là. Et il est, parce que pour moi, un film réussi, c'est quand les acteurs jouent sur le fil et pas dans la caricature. Pour moi, c'est épouvantable. Donc, le film est très dirigé d'un point de vue artistique sur les acteurs. Et donc, Chris, je l'ai trouvé comme ça. Claudia, par TikTok. Et ensuite, les autres acteurs, pareil. Il y a eu un casting, donc j'ai rencontré d'autres acteurs. Maddy Healthy, qui elle est une actrice, elle est assez connue, une influenceuse sur TikTok, mais qui se révèle être plutôt bien dans le film, dans son rôle d'escort girl. Et d'ailleurs, par rapport à Max, hein, le flic, il y a vraiment un reflet par rapport à son passé, je trouve ça intéressant. Et puis, Peter King, qui joue le rôle de l'autorité policière, qui est très bien, qui était la voix de John Caffey dans La Ligne Verte, et puis il y a tous les acteurs. En fait, il y a eu un casting général, y compris sur l'enfant, mais Christopher Lafaye, pour moi, est la grande révélation du film, parce que le rôle qu'il joue n'est pas simple. Voilà.
L'enfant a 4 ans, je crois. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour diriger un enfant?
C'est formidable, hein, il est génial. Là, il y a des secrets de tournage. Là, on ne va pas dévaluer. Je dis Joker. Mais en fait, non, mais on a bien sûr, tu sais, un enfant, il faut capter les meilleurs moments. Mais il se trouve que l'enfant a un charisme extraordinaire à l'image. Et on le suit au bout d'un moment et on se dit, voilà, je ne peux pas en dire plus. Mais c'est vrai que c'est un. Oui, c'était. Voilà, c'est, pour la petite histoire, c'est le fils de Christopher.
Ah,
la faille.
Non mais bon, c'est vrai que ça peut être pratique et tout. Moi, ça m'a fasciné parce que c'était un personnage à part entière quand même.
Pas simple, mais oui, à part entière, absolument, absolument.
Il y a une question que je pose toujours sur le Festival d'Avignon. Alors là, j'ai envie de la poser, ok? Cannes, c'est un festival, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être à Cannes?
La première fois que je suis venu à Cannes, c'est Madame Mitterrand qui m'avait invité. J'étais dans un hôtel tout au fond, 2 jours, pour son association, sa fondation, j'ai oublié le nom, l'Alliance française, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Elle avait une fondation et elle m'avait invité. Et donc, je suis venu et je rêvais de Cannes. Bon, après, comme toute personne qui veut vivre de ce métier pour transmettre quelque chose. Moi, je suis pas à Cannes pour fanfaronner ou dans la brillance, ça m'intéresse pas.
Tu rates la montée des marches en ce moment, je te signale.
Oui, c'est pas grave. Moi, on va peut-être le faire, mais on doit le faire. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la montée des marches est très importante pour un film parce que on met dans la lumière l'objet du désir, le film et les acteurs. Il faut rêver au cinéma. Moi, si je rêve plus au cinéma, c'est pas possible. Moi, je sais qu'il y a Meryl Streep qui est là, mais c'est un rêve de la rencontrer. Enfin, voilà, ça, c'est le rêve. Tant qu'il y a du rêve, il y a de la vie. C'est comme les jeunes qui aiment le football. Ça permet d'avoir un désir et puis peut-être un métier à faire. Donc après, je suis venu à Cannes pour un film américain dont je travaillais pour la distribution à l'époque où Téchiné présentait L'homme qu'on aimait trop, et ensuite surtout pour Kickback qui est sorti en 2015. Là, Thierry Frémaux a accepté, donc on a honoré le film sur les marches. Donc là, c'était grisant. Et puis Paranormal Investigation en 2018, et c'est comme ça que Netflix a acheté le film d'ailleurs. On a fait la montée des marches, et puis là, ce film-là, on doit justement faire aussi la montée des marches, une montée sèche, on appelle ça, montée sol, mais qui donne de la brillance au film et de la visibilité, ce qui est très important. Voilà, moi, c'est intéressant. Le film, pour moi, j'ai travaillé un an sur le film, 17 semaines de montage. J'ai travaillé avec les Canadiens, le film est canadien, mais avec la star du montage son au Canada, Martin Pinsonneau, qui est le film Kodak dont il a fait le son, a eu l'Oscar du meilleur film il y a 2 ans. Les anglo-saxons sont des très grands professionnels. Je ne dis pas qu'en France, il n'y en a pas, mais là-bas, le monteur son, il a 18 personnes à sa disposition, avec les bruiteurs. Et là, je suis parti un mois, on a donné au film ses lettres de noblesse. La musique est signée Fabien Strauss, qui est absolument en harmonie avec le sound design. Et il y a une consistance, chaque personnage. J'ai souhaité minutieusement que chaque personnage, dans le son, parce que la vie, c'est le son aussi, qui nous entoure, bien qu'il y ait c'est un peu une histoire en parallèle, le son et la musique. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et ça rajoute au film, ça le grandit. Et dans sa dramaturgie. Et je trouve que c'est magnifique. Moi, je suis très, très, très fier de ce film. C'est pour moi le meilleur film que j'ai fait. Je pense qu'on a le droit de ne pas aimer mon film. Je n'ai rien contre ça. Mais techniquement, artistiquement, je crois qu'on ne peut pas reprocher. Après, on a le droit de dire un tel, peu importe. En tout cas, de ce point de vue-là, je pense que j'ai été au bout du bout. J'ai fait le film que je voulais faire. Je fais le film que je veux faire. Grand moment de solitude après le mixage où on se dit ça y est, c'est terminé. Non, parce qu'un an, tu sais, Alain, c'est quelque chose. Parce que je suis quand je suis rentré de Montréal le vendredi, le samedi matin, j'ai été voir l'étalonneur en studio. On a rééquilibré des petits plans qui me dérangeaient pendant une journée. Après, ça y est, le film fait sa vie, c'est fini. Mais là, quand on vient pour la promotion et défendre son film de manière très déterminée, je suis un garçon très déterminé parce que je pense que c'est un film qui malgré l'histoire, fait du bien. Parce que, je sais pas, mais je pense que les gens le ressentent. Quand il y a beaucoup d'émotions dans un film, on ne pose pas une caméra juste comme ça. C'est-à-dire, je pense que les gens ressentent quelque chose et que je pense qu'on peut emmener quelque chose. Il fait 2h05, je ne sais pas, bon, tu l'as vu, si tu as vu le temps passer, mais je pense que dès qu'on a cette histoire, on veut savoir pourquoi. C'est la grande curiosité de l'être humain. Que se passe-t-il dans la chambre quand on est enfant, au dernier étage, où maman m'a dit « tu n'y vas pas ». Alors on veut y aller, on monte par la fenêtre, on fait ce qu'on peut, le film, c'est pareil.
Oui, je disais, je vais livrer une info. Je disais, un, je me suis pas endormi. Deux, j'ai pas eu de partir avant la fin. Et trois, j'ai pas vu le temps passer. Et franchement, c'est ça que je trouvais extraordinaire. Parce qu'il y a d'autres films qui, parfois, sont un peu longués et tout. Mais là, j'avais l'impression que c'était vivant. C'était... Et puis, c'était authentique, surtout. C'est ça, le mot qui était important.
Authenticité, parce que dans la réalisation, c'est-à-dire que tous les personnages... j'ai voulu cette authenticité puissante. Je voudrais donner un coup de chapeau à celle qui joue Scarlett Massan, qui est une immense actrice, qui est jouée par Taos Songzoni, qui était absolument exceptionnelle dans le rôle. Hein. Elle tient vraiment le film aussi. Et on y tient. Il y a tellement, Alain, de sentiments déséquilibrés dans le film. Les personnages ont tous besoin d'un truc. Ils n'arrivent pas à placer leur centre du désir. En psychanalyse, disait Freud ça. Où est-ce que tu places ton centre, ton objet de désir? Ben non, nulle part. Parce qu'ils cherchent tous à remplir des vides d'émotions, comme disait Bergman. Et les vides d'émotions, ils les trouvent où? Ben ils croient. Pour moi, dans la vie, on réussit quand on vit dans l'incertitude. Pareil dans les films. Dès qu'on est certain, c'est mort. Parce que même si tu crois être certain, tu vas dire, mais en fait... Non, je suis incertain d'être certain. Mais ce que je veux dire, et dans le film, c'est ça. C'est des personnages bourrés d'incertitude, mais qui pensent, ça y est, qu'ils ont trouvé. Mais ils se plantent, parce que rien n'est facile. C'est mon père disait, qui est un grand joueur d'échecs, aux échecs, il faut prévoir 5 coups à l'avance. Mais les êtres humains ne sont pas capables, quand ils sont victimes de leur émotion primaire et l'affect. Donc automatiquement, on part dans des chemins qui peuvent être destructeurs, et d'autres qui peuvent obtenir l'objet du désir à tout prix. Voilà.
Ça me fait penser quand Jean Gabin disait « je sais, et tout compte fait, je ne sais toujours pas ».
Je ne saurais jamais. Ben, parce que c'est vrai, on ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est la naissance et la finitude. Mais en réalité, nous sommes faits d'émotions, d'affects. Mais Eckhart Tolle, dans le livre d'Eckhart Tolle, « Le pouvoir du moment présent », il y a cette phrase qui est très révélatrice du livre. « Imaginez un monde dépourvu d'êtres humains, avec pour seule existence la végétation et les animaux. Et vous interrogez un aigle et un chêne, et vous leur demandez quelle heure est-il. Il vous répondrait, il est maintenant. Et oui, le temps ne passe pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, on est dans l'instant présent, mais les gens vivent dans des angoisses du passé, puisque le mental prend le dessus, il faut lutter contre son mental, ce qui est très difficile, même pour moi. Et de l'autre côté, tu as ceux qui craignent l'avenir, or, et qui sont victimes de leurs sentiments, qui cherchent leur objet du désir. Alors que l'objet du désir, souvent, est dans l'instant présent, mais ils ne le voient pas.
On a commencé par hier, on va finir par demain. Le problème, c'est quand on a fini un projet comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On déprime, on s'ennuie, on se dit, allez hop, je repars sur autre chose.
Alors, j'ai un projet au Canada avec un producteur qui a vu le film, et j'ai un projet avec les Américains. J'en dis pas plus pour l'instant. On est venu me rencontrer à Montréal. Voilà, c'est un scénario important, mais pour l'instant, on dit rien. Mais en tout cas, oui, non, en fait, là, j'ai fini, donc on va sans doute l'inscrire à des festivals. Bon, là, on est là pour un distributeur. Netflix doit voir le film aussi, parce que ma vendeuse internationale qui avait vendu les précédents à Netflix va aussi leur montrer. Mais je pense que c'est un film pour le cinéma. Tu as vu le film? Je pense qu'on a des scènes quand même très cinématographiques. Je veux saluer les décors aussi, hein, parce que je pense que les décors, je trouvais ça génial d'arriver à trouver tous ces décors, comme l'hôpital psychiatrique, on se croirait à Rome, et qui est un hôpital, en fait, qui Esquirol a fait construire, le grand psychiatre. Et il avait fait appel à un architecte à Rome pour donner, enfin, en tout cas, le sentiment aux internés en 1850 qu'il y avait un peu de liberté dehors. Donc, il a donné cette architecture qui est absolument dans le film génial, voilà, pour moi. Donc, les projets, oui, j'en ai. De toute façon, j'ai toujours des projets. Je pense qu'on est vivant tant qu'on a des projets. Mais surtout quand on les met en place et qu'on se bat pour ça. Pour moi, je suis comme ça, hein. Voilà.
Allez, question gentille pour finir. Celle-là, elle est toujours présente. C'est quoi ton rêve?
Mon rêve? Mon rêve, c'est toujours d'être vivant. Et ben, tu vois, quand on dit comme ça, circonstanciellement, c'est quoi ton rêve? Eh bien, ça signifie que ce serait... Alors, le rêve dans le cinéma? Ou en général?
Je te laisse complètement libre.
Dans le cinéma, un jour, c'est d'être aux Oscars, mais pas pour briller. Pour juste saluer mes parents et dire voilà, on reconnaît le travail, mais surtout le message aussi. Je suis pas de ceux, tu sais, moi j'ai tout ce qui apparaît, tout ça, on me connaît assez. Je fuis tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans mon fort intérieur, c'est vraiment d'arriver à un niveau, pas pour dire voilà, c'est moi que v'là, c'est dire voilà, le film où j'ai pu l'amener. Je suis très fier de ça, d'avoir la reconnaissance des pairs. C'est important aussi quand on fait un travail comme ça. Ça, c'est un rêve. Dans la vie, une belle histoire d'amour, mais ce n'est pas quand on cherche qu'on trouve. Donc, c'est toujours comme ça. Mais tu sais, je suis un artiste et l'artiste n'est vivant que quand il crée.
Ça, c'est une jolie fin, si je peux me permettre. Je vais te remercier.
Merci Alain, à bientôt.